Les pieds sur terre, Sonia Grönlund. Des histoires, des enquêtes, des reportages.
C'est bizarre comme les choses arrivent.
L'histoire se passe dans une start-up qui loue des trottinettes électriques, Bird. Elle est racontée par un site tech de Los Angeles qui s'appelle Dot.LA. Nous sommes le 27 mars 2020. Depuis déjà 2 semaines de Covid, faute d'activité et de trottineurs, la plupart des employés de Bird aux États-Unis télétravaillent. Ce jour-là, à 10h30, ils sont convoqués à une réunion en ligne sur Zoom intitulée « Covid-19 Update ». La plupart s'attendent à un point d'étape habituel, mais certains s'étonnent. Contrairement à l'habitude, la liste des participants est masquée. La réunion n'autorise pas non plus les questions. Bizarre. Et puis, les travailleurs numériques de Bird découvrent que tous n'ont pas été conviés. Ils sont exactement 406 à se connecter à l'heure dite. Habitués à des réunions ponctuelles, ils doivent cependant attendre 5 minutes pour voir s'afficher sur leur écran un simple carton gris avec écrit « Covid-19 ». Pas d'image en mouvement ni de vidéo. Seule une voix de femme que les employés n'identifient pas prend la parole. La voix n'a rien de métallique ni de froid comme ce sera dit plus tard. Ce n'est pas un robot, au contraire, elle est emotional, elle montre de la compassion et il y a de quoi. Car la voix est en train d'annoncer sur Zoom à plus de 400 personnes leur licenciement immédiat. Écoutez.
COVID-19 has also had a massive impact on our business. One that has forced our leadership team and our board of directors to make many extremely difficult and painful decisions.
Ça n'est pas la start-up qui licencie, dit la voix, mais la Covid qui a forcé Bird à prendre des décisions douloureuses et difficiles. Parmi elles, l'une consiste à éliminer un certain nombre de postes au sein de l'entreprise. Votre poste est impacté, dit-elle. Le mot licenciement n'est pas prononcé, mais tout le monde comprend, sous le choc. 2 minutes et quelques secondes plus tard, la réunion Zoom, ou plutôt la communication, est finie.
Thank you. Be safe and be well.
D'après les témoignages recueillis par Dot.LA, les employés sont presque immédiatement déconnectés de leur poste de travail. Ils auront quelques semaines de salaire, un mois de couverture santé et basta. L'histoire fait le tour du monde. Le PDG concède que peut-être il aurait dû faire autrement. Tout de suite, 2 autres histoires sur nos vies numériques pendant le confinement. La première concerne la vie privée, la seconde, le télétravail. Elles sont racontées par Valérie Borst, Les pieds sur terre et sur Internet, saison 19. C'est reparti, ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Je m'appelle Nathan, j'ai 32 ans, je suis marié, je suis père de 2 enfants qui ont 4 et 1 an et demi. Ça fait maintenant 6 ans que j'habite en Israël, dans une petite ville à côté de Tel Aviv. J'ai effectué des études de droit et je suis maintenant dirigeant de ma propre petite entreprise de services juridiques pour des clients à l'international. En Israël, la semaine commence le dimanche matin, à la différence de la France, c'est le lundi. Et moi, étant donné que je travaille quasi exclusivement avec l'Europe, je ne travaille pas le dimanche. Donc, mes enfants sont à l'école, ma femme est à l'extérieur pour suivre ses cours de guide touristique. Et donc, je suis seul à la maison. Je profite de mon dimanche pendant que mes enfants sont à l'école. Je fais beaucoup de travail via des logiciels de visioconférence. Ça m'arrive beaucoup de rencontrer des clients via Skype notamment. J'ai connu après l'application Zoom cette période de confinement. Il y avait 2 applications, je voyais un petit peu sur les réseaux sociaux. Il y avait House Party, il y avait Zoom. Alors j'ai tout de suite entendu certaines brèches de sécurité sur House Party, alors je ne me suis pas tourné vers elle. J'ai un copain qui m'a dit, je ne saurais pas rentrer dans les détails, qui un ami à lui a eu vraiment une brèche de sécurité vraiment très forte, des vols d'informations, de données, des données assez sensibles, en plus de tout ce qui est données basiques. Donc je ne suis pas allé plus loin sur House Party, je me suis tourné vers Zoom pour communiquer avec des amis, avec la famille. Parce qu'en groupe, c'est super sympa. la technologie a cet avantage-là. Alors, moi, je suis hyper utilisateur de ce genre de technique parce que toute notre famille habite encore en France. Donc, on utilise WhatsApp, vidéo, quotidiennement. C'est génial. Les enfants savent exactement qui est papy, qui est mamie. Et ils se sautent dans les bras parce qu'on se voit quasiment tous les jours via WhatsApp, vidéo. Alors, Zoom, c'est bien parce qu'on pouvait le faire en groupe. Donc, on a beaucoup utilisé ça dans cette période de confinement. On l'a utilisé pour toutes sortes d'événements. Il y a eu des circoncisions, il y a eu une bar mitzvah. J'ai assisté même à l'enterrement de mon grand-oncle via Zoom, qui se passait en France. On était quasiment toute la communauté juive de Maison Alfort, parce que je viens à la base de Maison Alfort. Et donc, tous les petits-enfants, tous mes cousins, moi-même. Il y avait beaucoup de familles qui étaient très loin, qui ne pouvaient pas se déplacer en raison du confinement, que ce soit en France ou en Israël. Certaines personnes ont pu filmer l'enterrement via Zoom et on a pu assister à l'enterrement, faire toutes les prières rituelles juives qui sont post-enterrement. C'était vraiment assister à toutes sortes d'événements. Et je me souviens même que le même jour, j'assistais donc du coup à un enterrement et une circoncision sur Zoom. C'est vraiment un outil qu'on a beaucoup utilisé. On trouvait ça génial. Jusqu'à ce fameux jour de Yom HaShoah. Alors c'est vrai que Yom HaShoah, nous on a l'habitude tous les ans, avec ma femme, soit d'organiser nous-mêmes ou alors soit d'aller directement à des témoignages de survivants de la Shoah. C'est quelque chose qui est vraiment très répandu en Israël. Ça s'appelle Zikaron Basalon, donc en fait la mémoire dans votre salon, une organisation qui invite les habitants d'Israël et chez eux dans leur salon un témoignage d'un ou d'une survivante de la Shoah. Et donc cette année-là, le lundi 20 avril, ma femme et moi, on était dans notre salon devant Zoom, donc c'était le témoignage de Myriam Gross. Pendant qu'on regardait ce témoignage, il y avait environ une trentaine d'utilisateurs, de participants. Et nous voyons que l'écran, donc avec Myriam Gross en écran principal, et donc tout autour des écrans d'autres participants qui avaient allumé leur caméra, ou alors avec des écrans noirs comme nous on l'avait fait, on n'avait pas activé notre caméra avec ma femme. Et d'un coup, surgit une image principale où on voit un bébé d'abord, un bébé que je ne saurais dire son âge, mais peut-être un an, quelque chose comme ça. Et c'est, on ne comprend pas, on dit qu'il y a un bug ou alors que quelqu'un dans les participants a tourné la vidéo sur son bébé ou quelque chose comme ça, mais puis on se rend compte très rapidement que très difficile d'en parler parce que les images sont très violentes. Et j'ai toujours essayé de les oublier, mais il faut en parler. Donc je vous dis ça avec beaucoup d'émotion. Et je pense que c'est important aussi de mettre des mots sur les images, même si ces mots sont forts et crus. Et je m'en excuse si cela peut choquer. Mais on voit un bébé se faire pénétrer par un homme sûrement d'un certain âge. Tout de suite, pas trop quoi penser parce que tout va très vite et ça enchaîne tout de suite avec une seconde image tout aussi difficile où on voit une petite fille qui a l'âge de ma fille vraiment en train d'exécuter une fellation à un homme et là évidemment on comprend vraiment ce qui se passe là ça on se fait hacker, on le sait. En fait, on voit un mouvement de panique. On voit un mouvement de panique dans les images. Qu'est-ce qui se passe? On entend des cris. On entend aussi, je me souviens très bien, Madame Grosse crier, mais que sont ces horreurs? Elle dit une phrase de ce type. Que sont ces horreurs? On l'entend crier. C'est vrai que c'est très dur. Et là, j'ai fermé l'ordinateur. Parce que c'était insoutenable. Et la première chose que j'ai fait, c'est bien entendu de consoler mon épouse parce que c'est vrai qu'elle était en état de choc à ce moment-là et en pleurs. Je me permets de parler en son nom. Ça a duré pendant très très longtemps ce moment de choc, ces pleurs. J'ai ensuite essayé de réouvrir mon téléphone via le réseau social Facebook et Twitter pour essayer de voir exactement qu'est-ce qui s'est passé et qu'on a compris là qu'une attaque, je vais dire avant tout déjà antisémite, parce que ça l'est, ça c'est sûr et certain, mais une attaque pour nous montrer des images pédopornographiques. Et là, suivi tout un système de tentatives de compréhension, d'essayer en fait de sortir ces images de la tête. Alors avec ma femme, on en a beaucoup parlé parce que là, les premières sensations qu'on avait, c'était en plus de tout ce qui émène, c'est beaucoup d'incompréhension, beaucoup de frustration aussi, de pas pouvoir aider ses enfants et d'être témoin de d'une chose qui est ignoble. On peut pas imaginer une chose plus ignoble que celle-là, faire du mal à des enfants et se dire que on nous a forcé à regarder ces images-là, c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais pu imaginer regarder dans notre vie. On ressent beaucoup de choses. Il y a beaucoup de sentiments qui se mélangent. C'est vrai que moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est finalement savoir que Madame Gross a terminé son témoignage le soir même. Ces gens-là, aussi ignobles soient-ils, ne réussiront pas à casser cette force. Moi, personnellement, qui ai vécu beaucoup d'antisémitisme en France, même si ce n'est pas la raison pour laquelle je suis parti, j'ai ressenti une profonde haine du juif. Hein. C'est vouloir gâcher la mémoire, tout simplement, par la pire image qui puisse exister. Ça fait beaucoup de mal. On a mis quelques jours à se reconnecter. Rien que d'ouvrir l'ordinateur, vraiment, on pensait encore à cette histoire-là. Donc, chaque chose qu'on ouvrait sur l'ordinateur, moi, j'avais cette arrière-pensée vraiment de ce qui s'est passé, qu'est-ce qui pourrait se passer. La première chose qu'on a fait, c'est vraiment se renseigner sur comment éviter dans le futur ce type d'attaque. Donc là, on a bien vu que Zoom permettait quand même de sécuriser la plupart des discussions. Donc entre familles, il n'y a pas de problème, puisque de toute façon, les liens restaient vraiment sécurisés. Mais c'est vrai que on a pris nos précautions, mais on a mis quelques temps à réutiliser Zoom. La dernière chose qu'on doit retenir de cette histoire, c'est forcément faire très attention à l'utilisation du logiciel Zoom et d'autres types de logiciels. C'est sûrement une erreur de la part des organisateurs, mais je pense qu'on ne pouvait pas imaginer ce qui aurait pu se passer. C'était public, donc tout le monde, tous ceux qui pouvaient avoir accès en tout cas aux liens via Facebook pouvaient en réalité réaliser ce hacking. Alors il semble que Zoom ait été mis au courant du hacking. L'enquête se poursuit. Je n'ai pas encore de nouvelles là-dessus, mais j'espère en tout cas que l'enquête conclura à quelque chose à essayer d'attraper ces malfrats.
France Culture, les pieds sur terre.
Je suis maman de trois enfants qui ont aujourd'hui 3, 5 et 7 ans. Je suis aussi un employé qui travaille pour une multinationale secteur industriel. Et j'avoue que les derniers mois n'étaient pas évidents pour nous parce que cet confinement, disons que c'est pour gérer ce moment. Donc mon mari était amené à travailler à temps plein. Donc, il ne pouvait pas bénéficier de chômage partiel quelconque. Tandis que mon entreprise, il fonctionne avec le chômage partiel, ce qui représente en moyenne 50% de l'activité par semaine. Donc, moi, j'étais consacrée à l'instruction des enfants. Et je dois dire que j'ai largement sous-estimé le travail que font les professeurs, puisque le travail est immense. Et donc pouvoir les instruire tous les trois en même temps, c'est très dur. L'âge des enfants sont différents, ils sont pas autonomes, donc il fallait que je prépare les devoirs qui sont distribués par les professeurs la veille du jour. J'avais mon agenda de ce que je dois faire avec chacun. Et c'est comme ça que je m'en sortais. Mais ça me demandait quand même voir une préparation la veille. Donc je devais avoir un doc, tous les docs imprimés, toutes les activités à préparer, tout le matériel préparé pour les petits. Donc oui, ça me prenait facilement une heure et demie de préparation la veille pour les enfants. Donc on faisait des vidéos Zoom, des vidéoconférences. Et je me rappelle les deux premières semaines, je m'en sortais pas. Avec le plus petit, je me suis dit, bon, je vais me concentrer sur les grands, le petit, c'est pas grave. Sauf que la maîtresse du plus petit, elle m'a envoyé des emails. Madame, est-ce que tout va bien? Est-ce que vous arrivez à suivre le programme? Si on présente pas le travail effectué, donc devant tous les élèves, ton enfant, il est un mauvais élève. Donc, il voyait que les autres, ils présentaient quelque chose et lui, il présentait pas. Donc, après, c'était une grosse déception. Donc, il fallait vraiment s'y appliquer. Pour ma fille, bon, disons, c'était un peu plus simple parce que, quand même, quelqu'un de responsable, même à 7 ans, il arrivait à faire ce qu'on lui demandait, mais quand même, elle vient avec des questions, donc, c'est pas évident. Et puis, ils ont pas envie. C'est-à-dire, ce qu'ils font avec les enseignants, ils ont peut-être pas forcément envie de faire avec moi, ou peut-être la manière dont j'explique n'est pas la même. Donc, j'ai essayé vraiment de prioriser, disons, chaque exercice. Pour celui qui a 3 ans à la maternelle, ce que je trouvais que c'était important, c'est qu'il apprenne quand même à compter et à déchiffrer les lettres. Donc, pour moi, c'était la priorité. Pareil avec celui qui a 5 ans. Après, je me disais, voilà, si j'ai pas le temps de faire le reste, c'est pas très dramatique, mais il faudrait que, voilà, je m'organise quand même qu'on fasse ça, ça et ça. Parce que après, une fois que c'est fait, il fallait prendre des photos, des vidéos, de les envoyer au professeur. Donc, c'était un travail plein temps. Disons que je me suis organisée. Et sauf que, au moment où je me suis organisée, il fallait que je reprenne le travail. Mon employeur a indiqué que voilà, les horaires seront entre 8h30 et 12h30. Et donc là, quand j'ai repris le télétravail, c'était tellement intense que je ne pouvais pas en fait, prêter attention aux enfants. Donc ils étaient là un peu à l'abandon. Donc il y avait mon mari qui a réduit la charge de son travail. Donc le matin, il avait son ordinateur sur la table où il faisait leurs devoirs. Donc le matin, bon, il faisait un peu semblant de travailler. Et c'est l'après-midi que moi, je reprenais le flambeau. Sauf que dans l'après-midi, ils n'ont pas envie de travailler. C'était hyper inefficace. Et puis, il y avait des moments où mon employeur demandait de faire des journées complètes. Donc moi, j'ai expliqué qu'avec 3 enfants, que je dois suivre les devoirs avec telle tranche d'âge, c'est impossible que je puisse faire une journée complète. Je peux pas les laisser livrer à eux-mêmes, même s'ils peuvent s'occuper, faire des jeux pendant 1 heure entre eux, mais c'est là vraiment la limite. Et puis, il y a tout le logistique autour, il faut leur préparer à manger. Et puis, mon travail, c'est vrai que c'était très intense. J'ai pu à peine aller faire des pauses pipi, entre guillemets. Parce que c'est réunion après la réunion, donc c'est vrai qu'on travaille de manière très efficace, mais c'est très tendu. Le fait que à une demi-journée, tu dois faire ce que normalement tu devrais faire pendant une journée, ça crée le fait voilà, de compression du temps, mais tu ne peux pas compresser le temps, et puis le cerveau humain, c'est pas une machine. Donc du coup, j'ai essayé de les coucher plus tard. Oui. Que ça, ils se réveillent plus tard, donc ce qui me permettait au moins de fixer quelques appels avant qu'ils se réveillent. Donc des fois, je me suis dit, bon, c'est pas grave, si les enfants viennent, je suis en appel. Donc ils venaient, ils demandaient des choses. Ça faisait rire mes interlocuteurs. Donc ça détendait aussi l'atmosphère du milieu professionnel, en certaine manière, parce que tout le monde est dans le même banc, finalement. Enfin, ceux qui ont des enfants, je trouve que ceux peut-être qui n'ont pas, ils n'ont pas ressenti la même chose. C'est quand même une pression qui est différente. Donc voilà, après, mes enfants, ils savaient qu'à 12h30, il fallait qu'ils viennent me chercher. Donc quoi qu'il arrive, il fallait que j'arrête de travailler à 12h30, puisque les enfants, ils avaient faim. Après, c'est dur parce que on se dit, ok, là où j'ai besoin de silence, on met un peu de dessins animés, mais on ne peut pas le laisser regarder le dessin animé à l'infini. Parce qu'ils ils sont comme des zombies après, parce que je vois l'effet que ça leur fait et ça me fait mal au cœur. Ils commencent à avoir les yeux fatigués, donc ils sont tellement concentrés sur l'écran qu'ils ne clignent pas les yeux. Donc, et après, dès qu'on arrête, ils sont mécontents et c'est comme si au retour à la réalité qui est... qui n'est pas drôle, donc je ne sais pas comment dire, c'est comme s'ils s'évadent, ils reviennent et ils ne sont pas contents. Donc du coup, après, il faut gérer cette frustration post-dessin animé. Et ça, c'est horrible parce que tu passes une heure de les calmer. Donc en fait, tu payes cher l'heure des dessins animés où tu peux travailler. Après, c'est des regrets. Et tu te dis, mince, pourquoi je dois faire vivre ça à mes enfants si j'aurais pu... les apprendre quelque chose, faire des choses utiles pour eux. J'ai demandé, est-ce que je pourrais pas, parce qu'il fallait qu'on évacue les journées de congé, donc des RTT, des jours consolidés. Donc j'ai demandé, est-ce qu'exceptionnellement, je pourrais pas prendre ces jours-là. Et la réponse, j'ai eu, mais pourquoi est-ce que je dois avoir ce bénéfice-là par rapport aux autres? Tout le monde voudrait faire ça. Et après, je me suis dit... faut que je vois comment je fais, parce que qu'est-ce que je dois prioriser? Mon employeur qui me dit que c'est comme ça, il faut que tu t'organises, ou mes enfants qui ont besoin de moi. C'est pas que ça m'a démotivée, ça m'a rendue triste parce que je me suis dit quand même, on devrait être un petit peu plus à l'écoute de la situation des gens qui sont dans ma situation, qui ont des enfants de cet âge et qu'il faut les instruire. C'est pas une garderie à la maison, ils doivent suivre les cours et d'imposer d'une certaine manière ce travail la journée complète. C'est un peu dur de se dire que après tant d'années de travail, qu'on ne peut pas trouver un arrangement dans le temps exceptionnel comme ça. Je comprends, le contexte, il est difficile, mais ça m'a perturbée dans mon travail. J'avoue que j'étais, à un moment donné, j'étais déçue dans relation de mon entourage professionnel qui a réagi comme ça. Courant de toutes les urgences et toutes les obligations qu'il y a à faire, je me laisse très vite emporter. On essaie de prouver qu'on est bien, parce que pendant les entretiens, on nous dit que voilà, vos objectifs ne sont pas atteints, donc on essaie de bosser plus en se disant que oui, là j'ai pas atteint, mais peut-être voilà, là je vais faire un peu plus d'efforts. Mais c'est sans fin. Même si je vais travailler 20 heures par jour, j'arriverai jamais à attendre les objectifs du poste où je suis. Et du coup, il y avait des moments de craquage, évidemment. Moi, mon mari, les enfants, tout le monde y passait. Pour moi, j'ai un peu souffert par rapport à ça. Donc, non, au niveau de sommeil, c'était dur. J'ai un peu perdu moi-même. Bah, quand on ne dort pas, et qu'il y a des enfants qui crient, et que tu sais que tu dois, je sais pas, rendre un document dans 10 minutes. Et oui, bah. Donc là, j'ai commencé, en fait, j'ai commencé à avoir ces problèmes. Quand il y a beaucoup de stress, je commence à avoir des angoisses ou un moment d'anxiété. Et là, quand je sens que ça vient, donc j'arrive plus à gérer le moment stressant. Et quand je vois que ça vient, bah, là, je préviens que, bon, je me laissais. Donc il y a mon mari, donc je m'éloigne et il me faut peut-être une demi-heure et ça passera et après, voilà, je reviens. Et c'est l'aspect physique, c'est le cœur qui commence à se battre, quelque chose qui monte dans la gorge jusqu'à qu'on ne peut plus parler, c'est la pression dans la gorge, c'est la tête comme si on la compresse avec plusieurs anneaux en métal, c'est dès que quelqu'un qui parle fort, tu as l'impression qu'on te coupe la tête. Donc disons que j'essaie d'être très attentive par rapport à ça pour ne pas... pour ne pas arriver au bout, pour ne pas craquer. Je pense que j'aurais pu vraiment déraper très grave, très, très gravement. au niveau mental. Dans l'entreprise où je suis, c'est vrai que le télétravail n'était pas quelque chose de bienvenu, disons ça comme ça. Peut-être c'est un niveau de confiance aussi envers ses employés, surtout dans le secteur, dans les emplois tertiaires qui ne demandent pas la présence sur les sites de production. On n'a pas besoin d'être présent au bureau. Le travail, en quoi qu'il consiste, il consiste à... On envoie des emails, on fait des analyses, donc on appelle sur Skype, on organise des appels avec plusieurs intervenants en même temps, donc c'est pas un problème. Donc pour moi, c'est le fait que voilà, qu'il y ait eu cette contrainte de confinement et que les gens ont pu s'organiser et que c'était démontré que l'efficacité est là, c'est pas anodin. Ça permet de gagner du temps en trajet, ça permet de gagner du temps en efficacité, ça permet d'avoir une très bonne conciliation vie professionnelle et vie personnelle, qui est dans mon cas. Donc, j'habite à presque 1h30 de trajet en aller vers mon travail. Bon, par jour, ça fait facilement entre 2h30, 3h de trajet. Quand on a des enfants en bas âge, qu'on doit aller chercher, déposer à l'école et récupérer, c'est des contraintes qui sont non négligeables. Donc pour moi, le télétravail, ça me permet de gagner énormément de temps et de mieux m'organiser. Mais revivre ça quand tu es obligé de travailler et obligé d'instruire tes enfants en même temps, je trouve ça très dur. Très, très dur. Donc, je ne souhaiterais pas revivre cet épisode-là. Voilà, j'ai pas bien fait ni l'un ni l'autre, en fait. Mais c'est peut-être la pression personnelle qu'on se fait comme des mamans, en tant que maman, en tant qu'employée, en tant qu'une femme, en tant qu'une épouse. Et donc, ça demande une réflexion personnelle de se dire que oui, on n'est pas des machines, on ne peut pas être à 100% partout. Et de voir où est-ce qu'on peut baisser le niveau. This life surrounds you, guns are loaded, this kind of tension. Hard not to notice, right. Do what you're told. Gotta keep your eyes wide on this long, narrow road. It'll be too high. C'était Leur vie numérique, deux histoires racontées par Valérie Borst et réalisées par Yael Mandelbaum avec un coup de main de Cécile Lafont. Merci à Nathan, Vincent, Estelle et leurs voisins, ainsi qu'à Mélissa Foust et Sandrine Chaperon.